9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre service, bonjour, bienvenue. On parle de santé, vous le savez, de cette émission. Et nous allons parler de santé sous un angle juridique avec mon invité aujourd'hui qui est le maître Vincent Judé-Parade. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Nous allons parler des maladies nosocomiales. Quelle est la définition juridique de la maladie nosocomiale?
Bah écoutez, c'est la maladie, c'est l'infection que vous allez contracter au décours de soins, donc soit dans un hôpital, un centre de soins, soit auprès d'un praticien. Donc c'est une infection qui doit vraiment s'inscrire dans le cadre de soins avec un cadre temporel assez précis, donc dans les 48 heures qui suivent votre admission.
Et c'est important.
Oui.
Alors donc il faut l'avoir contracté dans ce délai-là.
Oui, parce que si elle se développe avant les 48 heures, on va considérer qu'elle était déjà en incubation lors de votre admission. Mmh. Donc dans le cas de la preuve qui incombe à la victime, c'est très important qu'on puisse bien situer le moment à partir duquel cette infection commence à se déclarer concrètement.
Bien. Alors la plupart des gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui ont été concernés, puisque je regardais les chiffres, on estime que 750 000 personnes qui passent au bloc par an seraient concernées. Alors ça fait beaucoup. Hein.
Alors c'est pas seulement au bloc, parce que l'infection nosocomiale, ça peut se contracter en service de réanimation, de chirurgie, naturellement, mais pas seulement. Donc, si vous voulez, ça peut. C'est 700 000 cas dans l'ensemble du système de santé français, et on estime à peu près à 7 000 décès par an. Et donc, c'est quand même très important.
D'accord. Ça, c'est pour ceux qui meurent, mais il y a des gens qui restent invalidés et qui ont des séquelles.
Oui, parce que l'infection nosocomiale, c'est quelque chose qui peut provoquer au mieux une fièvre, et donc ça va passer avec de l'antibiothérapie. Mais parfois, ça peut aller jusqu'à l'amputation, à l'invalidité lourde, avec des infections parfois neurologiques. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences dramatiques et qui est encore assez méconnu aujourd'hui.
Ma génération qui a joué au rugby, par exemple, a été très concernée et a été informée de que ça existait par une clinique du sport, puisque les gens allaient faire des petites radios du genou pour voir ce qui se passait. Et il y a eu toute une série de maladies qui ont été contractées suite à cette clinique, avec des conséquences qui sont parfois très invalidantes. Alors comment est-ce qu'on sait finalement qu'on est victime d'une maladie nosocomiale?
Très souvent, soit ça va se déclarer au cours de l'hospitalisation, ce qui fait que vous allez avoir des épisodes de fièvre, des symptômes même d'une infection au sens propre du terme. Soit c'est en sortant que vous allez avoir une plaie purulente, une complication, et vous allez le découvrir soit parce que votre infirmière va vous dire il y a quelque chose qui ne va pas, soit parce que votre médecin traitant va vous le signaler, ou un membre du corps médical. Mais vous avez beaucoup de gens qui vont quitter un site hospitalier sans vraiment avoir connaissance de cela, et après on va partir à la recherche des éléments de preuve dans le cas du dossier médical pour essayer de trouver les causes et l'origine de tout ça.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont rentrés chez eux, en fait, qui subitement se retrouvent avec quelque chose, avec une complication.
Oui, et on se rend compte que très souvent, même si vous retrouvez... très souvent, les gens vont venir vous voir en vous disant « Oui, j'ai une infection nosocomiale ». On va prendre connaissance du dossier médical qu'on fait étudier, et en fait on se rend compte que il était écrit noir sur blanc dans le dossier qu'il y avait eu soit un staphylocoque doré, soit un autre germe qui a été contracté, mais qu'en fait il n'y a pas eu forcément l'information donnée directement au patient, et c'est là que les questions vont se poser, bien sûr.
Est-ce que les établissements hospitaliers sont tenus d'informer les patients du risque de maladie nosocomiale ou pas du tout? C'est un risque qui n'existe pas?
Oui, c'est un risque qui est connu et qui, très souvent, on les en informe, donc il y a des consentements éclairés. D'autant plus que maintenant, il leur incombe une responsabilité dite sans faute. Donc ça veut dire que si une infection est contractée et que la victime tente à obtenir une réparation, ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité que s'ils arrivent à démontrer la cause étrangère. Ça veut dire le cas de force majeure, ce qui est très difficile à rapporter. Donc de plus en plus, vous avez une information, mais c'est vrai que très souvent, les gens le découvrent pas par hasard, mais parce qu'ils sont confrontés à une complication qu'ils n'avaient pas soupçonnée. Et c'est en cherchant qu'ils vont en effet découvrir que l'infection est là et a eu des conséquences lourdes.
Bon, on va pas inquiéter tout le monde, les gens, mais c'est vrai que c'est un risque auquel les gens pensent quand ils vont à l'hôpital. Il faut savoir que tous les hôpitaux sont concernés, les plus vieux, les plus modernes. Aucun hôpital n'est à l'abri.
Oui, vous avez eu des établissements assez récents, très connus, hein, qui ont eu de gros problèmes d'infection à leur ouverture, notamment parce que parfois vous avez des malfaçons simplement, et que parfois le germe va se mettre dans le système de ventilation, de climatisation, et après dès que vous êtes dans l'hôpital, forcément vous avez des systèmes immunitaires qui sont défaillants, et l'infection peut parfaitement s'attraper à cette occasion.
Alors est-ce qu'on en connaît la fréquence finalement de ces maladies?
Vous avez
évalué.
Vous avez les nombres de contaminations évalués. Après, si vous voulez, la fréquence et le risque, ça va dépendre du service dans lequel vous êtes, si vous avez été opéré ou pas. Et puis, vous avez aussi donc les infections qui sont dites exogènes, c'est-à-dire qui sont extérieures à la personne. C'est un germe que vous avez, qui va venir de l'extérieur de votre organisme, mais vous êtes aussi vous-même porteur de germes. Et parfois, c'est lors d'une intervention, un germe dont vous êtes porteur, qui ne vous faisait rien parce qu'il n'y avait pas de point d'entrée dans votre organisme, va venir se nicher dans votre organisme, et là, vous avez contracté une infection. Donc, si vous voulez, la fréquence est difficile, naturellement, à prédire. Ce qui compte, par contre, c'est l'information a posteriori qu'on peut faire à la victime.
Si c'est un gène qui est endogène, comme vous voulez en parler, est-ce que finalement, l'hôpital peut être tenu comme responsable?
Oui. Alors, vous avez eu très très longtemps une divergence de jurisprudence au niveau administratif où on considérait que l'infection endogène n'engageait pas la responsabilité de l'hôpital. Maintenant, depuis la loi Kouchner, on ne fait plus de distinction entre les infections endogènes et exogènes. Dès l'instant où il y a un caractère nosocomial, c'est une responsabilité de plein droit.
Alors, la loi Kouchner dont on va parler ce matin, qu'est-ce qu'elle change en termes, justement, de maladie nosocomiale?
La loi Kouchner a déjà, on va dire, a fixé, d'un point de vue légal, la jurisprudence qu'on avait acquise au cours de 20 ans. Voilà, donc déjà, c'était pas mal. Elle a harmonisé le système judiciaire et administratif, parce qu'il faut comprendre que, selon que l'infection ait été contractée dans un hôpital privé ou une clinique privée ou un hôpital public, les procédures ne sont pas les mêmes et les juridictions ne sont pas les mêmes. Donc déjà, on a harmonisé tout ça. Et puis surtout, on a permis de mettre en place des procédures qui vont simplifier les demandes de réparation qui peuvent être faites par les victimes, notamment en instituant l'ONIAM, le Fonds de garantie des erreurs médicales, et aussi les commissions de conciliation et d'indemnisation.
Qu'est-ce qui peut inciter les gens finalement à aller voir un avocat? Parce que beaucoup de gens peuvent se poser la question, j'ai attrapé ça à l'hôpital, ça fait partie du risque.
Très souvent, ce qui va venir les pousser à, ce qui va les faire qu'ils vont venir pousser à la porte de votre cabinet, c'est d'avant tout les conséquences. Parce que vous avez quand même des conséquences qui parfois sont graves. Vous avez des arrêts de travail qui vont durer, des conséquences professionnelles. Quand vous avez, par exemple, un staphylocoque qui va emporter l'amputation d'un membre, forcément, les conséquences sont dramatiques. Et puis, de manière générale, je pense qu'aussi, il y a de plus en plus la volonté de la part des patients d'avoir, quelque part, toute la vérité sur ce qui a pu leur arriver. Parfois, on va même dans l'excès. Après, la mission de l'avocat, ça va aussi être de faire le tri entre les cas qui méritent véritablement des demandes en réparation, de celles qui, a priori, soit tiennent moins la route, soit ne justifient pas qu'on engage des procédures qui vont durer assez longtemps.
Alors, la vérité en termes de santé, on a tous autour de nous des affaires où des gens ont essayé d'avoir ne serait-ce qu'accès à leur dossier médical.
Oui,
vous voyez, quand on parle de vérité, c'est simplement ça.
C'est très compliqué. D'un point de vue légal, depuis la loi Kouchner, le dossier médical appartient au patient. Donc, tout patient peut en faire la demande et on est tenu de lui communiquer. Alors ça, c'est d'un point de vue de la loi. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir aller faire des référés, injonctions avec demande de mise sous astreinte pour obtenir des documents médicaux. Alors, comme par hasard, dès que vous faites un référé, le dossier arrive et puis vous avez une jurisprudence.
Donc référé, ça veut dire que c'est une procédure qui va vite.
D'urgence. Et vous avez un arrêt récent qui a considéré que le fait pour un centre hospitalier de ne pas être capable de produire un dossier qui aurait été perdu engage ipso facto sa responsabilité pour faute. Donc déjà, on a ça. Donc aujourd'hui, normalement, le patient peut obtenir, mais après, c'est vrai que parfois, vous avez des dossiers, soit qui sont parcellaires, soit qui sont pas intégraux, qui sont difficiles à obtenir, parfois même qui sont pas forcément le dossier tel qu'on l'imaginait. Bon, donc, c'est pas le simple fait de demander, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais la loi, en tout cas, va dans ce sens.
Alors, qui est responsable en cas de maladie nosocomiale?
Alors, il faut distinguer selon que l'infection ait été contractée en centre de santé, soit hôpital clinique, ou alors chez un libéral, un praticien libéral, kinésithérapeute, labo, etc. En cas d'établissement de soins, c'est simple, la loi dit infection nosocomiale qui répond aux critères, c'est-à-dire dans le cadre de soins et dans le délai, responsabilité sans faute. Donc c'est à l'établissement de prouver qu'il y a une cause extérieure, une cause étrangère qui le dédouane de sa responsabilité. S'agissant du praticien, on reste sur la démonstration de la faute par la victime. Donc c'est à la victime de venir rapporter la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité qui incombe au praticien. Donc naturellement, ça va être beaucoup plus compliqué de rapporter l'existence d'une infection nosocomiale quand il ne s'agit pas d'un établissement de soins.
Mmh. Et là on fait comment alors ?
Bah ça va, il va falloir démontrer que les conditions d'hygiène n'ont pas été respectées, que tout le protocole n'a pas été respecté, et c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup plus compliqué.
Alors, qu'est-ce que vous conseillez à des gens qui nous écoutent ce matin, qui voudraient faire valoir leur droit? Alors, peut-être que certains nous écoutent, ils disent, ben ouais, c'est vrai, moi j'ai eu une opération il y a 4-5 ans, j'ai attrapé une saloperie à l'hôpital. Déjà, en termes de délai, quelle est la règle? On peut porter plainte combien de temps après?
En termes de délai, vous avez un délai de la prescription qui est 10 ans à compter de la consolidation, donc vous avez un délai...
10 ans, voilà, donc c'est large.
Assez long. Je pense que la première chose à faire, avant tout, c'est de demander son dossier médical. Parce qu'aucun médecin, aucun avocat ne pourra se prononcer s'il n'a pas le dossier médical entre ses mains. Et ensuite, en fonction toujours de la gravité de ce qui a été subi, parce que une infection, c'est sûr que si vous avez eu 15 jours de fièvre ou une antibiothérapie, que ça s'est arrangé, il faut se poser aussi la question du caractère judicieux d'engager une procédure qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, pour quelque part un résultat qui ne sera pas forcément très satisfaisant.
Donc, j'ai envie de vous dire que c'est au patient, au client, à qui vous voulez, de voir quel est l'impact que ça a pour lui. Il peut y avoir parfois des choses qui n'ont pas l'air énormes comme ça, sans qu'il y ait amputation, tout ça. Mais si, du jour au lendemain, vous pouvez plus marcher normalement ou...
Ah oui, non, mais c'est bien pour ça que je vous dis, avoir son dossier médical, deux, se rapprocher soit d'une association de patients qui habituellement sont plutôt aguerris à ce genre de cas, soit d'un avocat qui est spécialisé en droit médical ou en dommages corporels, de manière à ce qu'il y ait une étude du dossier qui soit faite. Et surtout, l'avocat en général va se faire conseiller par un médecin expert qui va lui permettre d'avoir une lecture la plus complète possible. D'abord sur le plan médical, puis ensuite, quelle réponse juridique on apporte au cas médical qui lui est soumis.
Si la personne est décédée, qui peut obtenir son dossier médical?
Alors, les ayants droit, donc ça veut dire les enfants, si c'est un parent, l'épouse, les ayants droit peuvent demander, par lettre recommandée à l'établissement de soins, avec une copie du livret de famille, et ça ne peut pas leur être refusé.
D'accord, donc ça, ils peuvent l'obtenir. Ouais. Et sinon, comment est-ce qu'on obtient son dossier médical? Il suffit d'aller directement à l'hôpital et on...
En général, c'est soit auprès du secrétariat, ça dépend, si c'est un établissement public, c'est la direction, vu que c'est l'établissement qui est responsable pour le compte de l'État. Si c'est un établissement privé, il faut demander à la direction de la clinique, mais également au médecin qui peut agir en libéral et donc est responsable personnellement. Donc bien veiller à faire les demandes auprès des deux.
On ne peut pas vous refuser de vous remettre.
En aucun cas, on peut refuser et le fait d'un refus la personne peut s'exposer à des sanctions et surtout à une condamnation sous astreinte.
Est-ce qu'il y a toutes les informations dans son dossier médical ou il y a un certain nombre d'informations auxquelles le malade n'a pas accès?
Normalement, le dossier médical est intégral, c'est-à-dire qu'il y a tout. Et notamment en cas d'infection nosocomiale, ce qui est très 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 important, c'est d'avoir les fiches de suivi infirmier. Ça veut dire les courbes de température, toutes les données au jour le jour qui vont justement permettre de fixer le plus précisément possible le moment où l'infection a été décelable, de manière à pouvoir rentrer ensuite dans le délai d'imputabilité.
Est-ce que ça y est marqué d'ailleurs sur le dossier? Comment est-ce que c'est exprimé?
Parfois vous avez un compte rendu, par exemple un compte rendu d'hospitalisation, vous allez avoir très clairement analyse bactériologique mettant en évidence un staphylocoque doré, par exemple. Ou là vous allez avoir un document qui, ne serait-ce que par cette expression, va vous permettre de dire il y a eu une infection nosocomiale qui a été contractée. Parfois c'est beaucoup plus compliqué, on va devoir le deviner au vu du traitement qui a été posé, au vu de la courbe de température, et parfois d'une petite note manuscrite qui aura été posée de manière assez parcellaire.
Bien, donc si j'ai bien compris, Maître Vincent Judet-Parral, aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté à obtenir son dossier médical.
Il ne devrait y en avoir aucune. Après,
pourquoi vous parfois, dites-il devrait?
Parce que parfois, moi j'ai eu des dossiers contre des hôpitaux publics ou privés où vous demandez un dossier qui n'arrive pas, vous êtes obligé de relancer, vous êtes obligé de saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui émet un avis favorable, et puis vous l'avez toujours pas, et puis vous êtes obligé d'assigner devant le tribunal administratif en référé. Parfois, vraiment, on joue la montre et c'est assez compliqué. Voilà. Donc, en général, vous l'avez. Et surtout, une fois que vous avez que l'établissement vous envoie votre dossier, c'est toujours bien d'aller voir un médecin ou bon, un avocat, mais surtout un médecin, de manière à vérifier que tout y est bien. Voilà, parce que parfois, il est vrai qu'on a tendance à en mettre une partie et à pas tout mettre. Et
c'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que toutes les informations sont dans un dossier médical ou est-ce que finalement...
C'est pas forcément de la mauvaise foi, mais une copie recto qui n'est pas verso, il suffit que l'important soit sur le verso et vous n'avez pas l'élément de preuve, quoi.
Bien, on parle des maladies nosocomiales ce matin. Profitez de la présence de notre avocat, Maître Vincent Judet-Parral, qui est avec nous. Vous êtes spécialisé dans la défense des victimes, notamment. Donc, si vous avez des questions, vous avez été peut-être vous-même victime d'une maladie nosocomiale. Vous pouvez appeler le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant.
Et nous parlons des maladies nosocomiales avec mon invité aujourd'hui, Maître Vincent Judet-Parral. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé de la défense des victimes. Alors, à partir de quel moment on peut considérer qu'on a intérêt à aller voir un avocat quand on a été victime d'une maladie nosocomiale contractée à l'hôpital?
On va dire dès l'instant où ça emporte des conséquences qui sont particulièrement importantes, c'est-à-dire un arrêt de travail qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou alors des conséquences physiques qui vont être lourdes, des traitements qui vont durer. Dès l'instant où ça commence à avoir un impact réel sur la vie personnelle et professionnelle. Voilà, si en effet il y a une infection, ce qui arrive, qu'elle est diagnostiquée, qu'elle vous est annoncée, et qu'au bout d'une semaine l'antibiothérapie a fait son effet, là en effet la question peut se poser de savoir si ça vaut le coup ou pas.
Oui. Alors quels sont les conseils qu'on peut donner aux gens qui sont victimes d'une maladie nosocomiale? Des conseils pratiques, parce que finalement quand on est malade, la première chose qu'on fait c'est de se soigner.
Mais je pense que d'abord, c'est de clairement poser les questions qu'on se pose. Alors, c'est très simple, mais beaucoup de gens restent encore devant le culte du médecin qui est un sachant tout puissant inaccessible. Très souvent, les gens n'osent pas poser les questions, n'osent pas demander des explications sur ce qui se passe, sur les complications. Et ça, je pense que c'est la première erreur, entre guillemets, c'est de ne pas avoir peur de dire, il y a quelque chose qui ne me satisfait pas, qui ne me va pas, je m'interroge, donnez-moi des réponses. Et ensuite, si vraiment la réponse n'est pas satisfaisante, d'aller consulter quelqu'un d'autre, de manière à avoir plusieurs avis sur une situation, et ensuite pouvoir, en toute connaissance de cause, décider de consulter soit une association, soit un avocat.
Mais quel est l'intérêt pour le malade finalement de le faire?
Déjà, d'avoir plusieurs avis, ça va permettre d'avoir quelque part un regard un peu plus objectif sur la situation et parfois aussi de dédramatiser et de ne pas psychoter sur une situation qui peut lui paraître alarmante alors qu'elle n'a rien d'alarmante, qu'elle est peut-être normale. Voilà. Et très souvent, moi, j'ai des gens qui m'appellent et ils me disent « voilà, j'ai eu ça ». Et c'est vrai que quand j'en parle avec le médecin conseil que je sollicite, il va me donner une réponse et je suis capable de leur dire « écoutez, il n'y a rien de grave là-dedans, il y a peut-être une petite infection, mais voilà, ça ne mérite pas d'aller plus loin. » Par contre, il y a aussi des cas où concrètement, vous avez... moi, j'ai eu un cas dont je me souviens parfaitement, une femme qui était décédée pour avoir attrapé la grippe A dans le cadre d'un service de réanimation d'un hôpital parisien, où techniquement, l'infection nosocomiale existait, si ça faisait aucun doute. Mais cette femme était atteinte au ce moment-là d'un cancer incurable avec un pronostic vital engagé à court terme. Et donc là, la question était vraiment légitime de se poser, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'engager une procédure, parce que le caractère nosocomial était indiscutable, n'était pas contesté d'ailleurs. L'argument qu'on aurait opposé aux proches, aux ayants droit, à mon sens, aurait été ce point humain tellement insoutenable, c'est-à-dire de s'entendre dire oui, votre femme ou votre mère est peut-être morte de la grippe,
mais elle serait morte d'autre chose.
Ce sont vraiment des cas de conscience.
Ce qu'on entend dire, c'est beaucoup de personnes âgées qui contractent par exemple des maladies nosocomiales à l'hôpital, on dit mais de toute façon, elle est morte de vieillesse.
Oui, et si vous voulez, le souci, c'est qu'après, l'avocat que vous avez sollicité, à mon avis, se doit aussi de vous mettre en garde sur ce qui vous attend une fois que vous lancez une procédure. C'est une expertise, peut-être même deux, c'est des mois d'attente, ce sont quand même des choses qui sont assez compliquées à vivre, vous vous remuez quand même la douleur et la souffrance. Mmh. Donc c'est pour ça que je mets en garde sur le fait de, avant de se lancer dans une procédure quelle qu'elle soit, même gratuite devant une commission de conciliation, les CCI, il faut vraiment être vigilant d'avoir pris plusieurs avis pour savoir où on va et ne pas s'exposer à des choses qui sont humainement assez compliquées à...
Alors justement, quels sont les organismes qui se mettent en place par l'État en termes de
alors,
maladies
nosocomiales? Alors vous savez, depuis la loi Kouchner, donc les CCI, les commissions de conciliation et d'indemnisation, donc vous en avez une par région, elles peuvent être saisies de demandes d'indemnisation. Donc il y a des critères de gravité pour qu'elles soient compétentes.
Mais ce sont des instances spécifiques, voilà, qui ont été mises en place par l'État.
Par l'État, de manière à faire mettre en place des expertises et ensuite à pouvoir suivre la procédure d'indemnisation, mais dans un cadre de conciliation. Donc attention, les décisions que rendent ces organismes ne sont pas des jugements. Et ensuite, vous avez le droit, ce qu'on appelle le droit commun, c'est les procédures classiques qui existaient avant Kouchner. C'est la procédure devant le tribunal administratif si ça s'agit d'un établissement public, avec une demande d'expertise. On attend le dépôt du rapport et ensuite une procédure dite au fond ou le tribunal de grande instance, il s'agit d'un établissement ou d'un praticien privé.
Alors, l'expertise médicale peut révéler une importance capitale. Comment les experts sont-ils choisis? Est-ce que c'est le malade qui va voir son expert ou c'est un expert qui vous est fourni?
Alors d'abord, c'est pas que ça peut être un élément capital, c'est que c'est la clé de voûte de la procédure. C'est-à-dire que si c'est l'expertise qui va déterminer si ou non il y a une infection dite nosocomiale, donc imputable, et si elle est fautive ou pas. Donc c'est cette expertise qui va être essentielle. Alors, ce qui va se passer, c'est que soit l'assureur du centre hospitalier ou du médecin est d'accord pour mettre en place une expertise amiable, auquel cas bah, la compagnie va mandater un expert et la victime a la possibilité de mandater le sien. Et donc vous allez avoir deux médecins qui vont d'un commun accord en amiable contradictoire se établir les conclusions, ce qui est assez rare. Soit vous allez saisir les CCI, les commissions de conciliation, et là c'est la CCI qui va désigner un expert ou plutôt un collège, souvent ce sont des collèges d'experts, mais la victime a toujours la possibilité, et c'est même souhaitable, de se faire représenter ou assister par son propre médecin.
Mais à titre d'expert ou à titre de...
À titre de conseil.
D'accord.
Donc à titre de conseil. Et en judiciaire, c'est pareil. Ça. Si l'expertise est ordonnée à la demande de la victime par un tribunal, l'expert va être désigné par le tribunal et sera impartial et indépendant. En tout cas, elle devrait. Et il est toujours souhaitable pour la victime d'être assistée ou représentée par son propre médecin conseil. Son avocat sera souvent là, mais l'avocat est un avocat. L'avocat est là pour vérifier que les conditions d'expertise se déroulent bien et que les critères légaux sont respectés. Maintenant, l'analyse médicale, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est capable de parler sur un même pied d'égalité avec les experts.
Alors, il y a des gens qui sont habitués à constituer des dossiers, et puis il y a ceux qui ne sont pas du tout habitués et que la question des dossiers dépasse. Aujourd'hui, quand on veut constituer un dossier, qu'est-ce qu'on doit conserver comme pièce? Quelles sont les pièces qui sont importantes d'avoir dans sa petite chemise?
Alors, si vous voulez, ça va assez loin. Ça veut dire que, par exemple, si vous contractez une infection au décours d'une pose de prothèse, il va falloir que vous ayez votre dossier intégral. C'est-à-dire des examens préalables à l'intervention, donc des premières consultations anesthésistes, jusqu'au plus proche de la date de saisine de l'expertise. Donc, parce qu'en fait, si vous voulez, en matière médicale, vous avez le fameux, ce qu'on appelle l'état antérieur. Quelles étaient les éventuelles prédispositions? Est-ce que quelque part le staphylocoque qui va se réveiller au détour de l'intervention, est-ce qu'il n'était pas déjà présent en raison d'une intervention antérieure? Ça peut être un cas. Donc vraiment, tout bien garder, il en vaut mieux trop que pas assez, et surtout les garder par ordre chronologique, ce qui est assez essentiel pour une lecture assez, assez facile. En général, quand les gens ont leur dossier qui leur est communiqué, c'est déjà fait, et aussi penser à demander les dossiers médicaux de l'ensemble des praticiens ou des centres auxquels vous avez été confrontés. Parce que parfois vous avez une transmission, mais parfois vous n'en avez pas. Alors, si vous passez par la case hôpital et que vous allez en centre de rééducation, en général, la transmission se fait. Mais parfois, vous allez consulter tel médecin dans un centre de radiologie, tel autre dans une clinique, et ensuite vous allez être pris en charge dans un centre de rééducation, et donc c'est important de demander le dossier médical de chacun d'eux pour avoir
Donc, ce qui veut dire qu'il faut tout conserver, quoi.
Oui, en matière médicale, c'est toujours mieux. Et même à l'issue d'une procédure, c'est toujours mieux. Moi, j'ai toujours mes clients. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez été indemnisé qu'on a pu faire liquider vos préjudices. Conservez ces éléments aussi longtemps que vous pourrez, parce que votre dossier est peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais susceptible d'être ouvert en aggravation.
Alors, indemnisation, quand on parle d'indemnisation, on parle de quoi?
Alors, on parle de la compensation pécuniaire, parce que malheureusement, le droit ne peut faire que cela, de l'ensemble des conséquences dommageables. Donc, ça veut dire, ça va être les frais engagés, par exemple les dépassements de frais médicaux, ça peut être les frais de location de télévision, enfin, pas vraiment lors de l'hospitalisation, des petits frais, mais ça va être de manière plus importante, hein, par exemple les pertes de gains. Si vous avez dû être placé en arrêt de travail plusieurs mois, vous avez perdu des primes, des heures supplémentaires, etc. Ça peut être également les frais en cas d'amputation, les frais de prothèse. Ça peut être la perte de chance professionnelle. Donc, si vous voulez, le but de l'indemnisation, c'est de replacer la victime dans l'état. Encore une fois, c'est une fiction juridique, mais dans l'état dans lequel elle se serait trouvée en l'absence de l'infection. Donc vraiment, le but, c'est de procéder à la réparation dite intégrale. Alors, on va indemniser les conséquences, mais que les conséquences. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes opéré une prothèse de hanche, que vous attrapez une infection
bucco-rhinale,
on va bien devoir distinguer les conséquences de l'infection au sens propre du terme, de celle de
l'opération,
parce que c'est seulement les conséquences imputables à l'infection qui seront indemnisées. Donc c'est là encore, on est vraiment dans le domaine médical et juridique, et c'est important en cas de conséquences on va dire importantes, de savoir se faire entourer par des professionnels qui connaissent ce genre de cas pour avoir une évaluation et une indemnisation la plus juste possible.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a quoi? Il y a des barèmes qui existent?
Alors, il y a non pas des barèmes, parce que les barèmes sont officiellement proscrits, mais vous avez des référentiels. Par exemple, vous avez l'ONIAM, le Fonds de garantie des actions médicaux, donc l'Office national d'indemnisation, qui édite régulièrement un référentiel d'indemnisation. Alors c'est très critiquable, parce que l'ONIAM est souvent jugé parti, et que donc il est parti, mais il va proposer son propre référentiel qui est actuellement suivi par tous les tribunaux administratifs de France, ce qui fait qu'aujourd'hui parfois vous vous retrouvez dans la situation où vous avez l'une des parties qui sait, l'ONIAM qui sait que de toute façon l'indemnisation est barémisée sans qu'on ose dire le terme. Voilà. Donc vous avez des référentiels, vous avez de la jurisprudence, et vous avez, il est vrai, il faut le dire, une différence de traitement indemnitaire selon que vous soyez victime dans le cadre d'un établissement privé ou public. Dans le cadre privé, vous allez avoir la juridiction judiciaire qui sera compétente, avec une jurisprudence souvent beaucoup plus favorable, parce que dégagée du référentiel ONIAM. Si vous êtes victime dans le cadre d'un établissement public, vous dépendez des tribunaux administratifs qui, eux, en général, se plient à ce fameux référentiel qui est souvent très critiqué par les avocats de victimes.
Mmh. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire valoir ses droits quand on a été victime d'une infection nosocomiale ou pas?
Ce qui est compliqué, c'est que quelque part, c'est un parcours du combattant par les efforts que ça suppose. D'abord, c'est quand même des gens pour qui, ne serait-ce que faire une demande de dossier médical, c'est compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est d'abord vous allez peut-être aller voir une association, mais aller voir un avocat, parfois ça fait peur. Donc aussi, ça va être compliqué de dire je vais voir un avocat, combien il va me prendre, c'est souvent la grande question.
C'est là quand même la première question. Voilà. Les avocats sont pas bénévoles.
C'est ça. Et surtout, ce qui est compliqué ensuite, c'est que c'est un parcours qui est dur, parce
c'est ça qui est épuisant en fait finalement.
Qui est épuisant moralement et qui est souvent vous dites tout ça pour ça. Voilà. Et parfois, vous avez des mauvaises surprises et vous avez parfois des gens qui sont qui partent bien en tête dans une procédure, parfois mal guidé, mal renseigné, et qui se retrouve à un an et demi au bout de l'expertise avec un rapport qui va leur dire passez, il y a rien à voir. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut que les gens soient le mieux renseignés possible, et qu'on leur dise clairement les choses, qu'on leur dise voilà les chances que vous avez d'obtenir gain de cause, parce que cette décision de partir en expertise, elle doit se faire de la manière la plus éclairée possible.
Si c'est quelque chose que vous avez travaillé pendant le transport, on parlait des ambulanciers aujourd'hui, mais par exemple dans le transport ou le SAMU, tout ça, c'est pris en compte ou...
Oui, alors, dès l'instant où c'est un acte à visée thérapeutique, le SAMU, par exemple, l'intervention du SAMU est considérée comme un acte thérapeutique. Souvent, en matière de transport en ambulance, ce qui va se passer, moi j'ai le cas là, en ce moment, c'est un accident dans le cas d'un transport en ambulance.
C'est autre chose. C'est encore autre chose, oui.
Mais c'est pas
une maladie nosocomiale, là.
Non, mais c'est un accident médical au sens générique du terme. C'est-à-dire que vous êtes transporté d'un établissement à un autre, et par exemple, ma cliente a mal été manipulée lors du transfert, elle est tombée de son fauteuil roulant, et la fracture du fémur qui devait se remettre assez facilement, c'est lourdement compliqué parce qu'elle a dû être réopérée et qu'à cette occasion, elle a attrapé une infection. Ah, donc, si vous voulez, vous avez ce genre de cas, mais c'est quand même pas fréquent, parce qu'en général, les transporteurs et les ambulanciers sont même très professionnels et font attention, mais ça peut arriver. L'infection nosocomiale, c'est vraiment tout acte qui va se rattacher à un acte de soin. Donc ça va commencer, oui, de la prise en charge du SAMU, par exemple, si on doit faire une intraveineuse et que il y a un germe qui est contracté à ce moment-là, ce sera considéré comme une infection nosocomiale au sens propre du terme.
D'accord. Et si je vais faire une injection de Botox pour avoir l'air plus jeune de 25
alors,
ans?
Alors ça, c'est c'était un grand débat parce que vous avez tout un pan depuis la loi Kouchner des infections, mais également des accidents médicaux dits non fautifs, l'aléa thérapeutique par exemple, qui sont indemnisés sous couvert de la solidarité nationale par l'ONIAM. Et la question s'est posée de savoir, est-ce que par exemple dans le cas d'une chirurgie esthétique, est-ce qu'on doit pouvoir être indemnisé par la solidarité nationale alors qu'il ne s'agit pas d'un acte à visée thérapeutique au sens propre du terme? La réponse actuellement est non. Ça veut dire que si jamais il y a un accident dans le cadre, je sais pas moi, d'une pose d'implant mammaire qui ne serait pas de la reconstruction.
On en a vu quand même quelques-unes.
Voilà. Dans ce cas, s'il y a une faute du chirurgien, une faute technique ou un défaut d'information, il engagera sa responsabilité, la victime sera indemnisée par l'assurance du chirurgien. Par contre, s'il s'agit de ce qu'on appelle un aléa thérapeutique ou une infection non fautive, là, la solidarité nationale ne marchera pas parce qu'on va considérer que, quelque part, c'est la victime qui a souhaité cet acte qui n'était pas indispensable à sa santé et que donc la collectivité n'a pas à assumer ce genre de coup.
Même si on peut attraper des infections nosocomiales dans ce style d'établissement.
Si vous l'attrapez et que le caractère fautif, notamment en raison d'un non-respect des protocoles, est avéré, la victime sera indemnisée parce qu'il y a une faute. Si on est dans le cas où il n'y aurait pas de faute, la responsabilité sans faute ne fonctionnera pas.
Bien, les malades que nous sommes ont des droits. On parle des maladies nosocomiales avec mon invité ce matin, Maître Vincent Judet-Parade, qui est lui avocat spécialisé dans la défense des victimes. Vous pouvez poser toutes vos questions au 01-53-48-3000. 01-53-48-3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Nosocomiale, on parle des infections nosocomiales avec mon invité ce matin. On en parle d'un point de vue juridique puisqu'il est avocat. C'est Maître Vincent Judet-Parade. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé de la défense des victimes. Effectivement, on noircit le trait, mais la plupart du temps, ça se passe très 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 bien, 99% des cas. Hein.
Oui, attention, quand même, vous avez beaucoup, le système de santé sauve énormément de vies, répare énormément de dégâts. Maintenant, vous avez des cas où vous avez des complications, et ce qui est important, c'est de permettre aux victimes de ces complications d'obtenir la réparation qu'il aurait dû.
La maladie nosocomiale, elle est presque inhérente au parcours de soins.
Oui, c'est un risque. C'est un risque, et c'est pas, encore une fois, c'est pas une guerre ouverte contre les médecins qui est menée. C'est simplement d'obtenir la compensation de conséquences de quelque chose qui peut être redouté. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire que ça fait partie du risque et que quand on va à l'hôpital, on peut attraper une infection. Maintenant, c'est comment est-ce que dans ce cas, on peut obtenir réparation. Et parfois, c'est vrai que la seule critique qu'on peut formuler au système de santé, c'est quelque part un manque de transparence dans certains cas.
Ouais. C'est toujours quelqu'un à qui on avait dit, vas-y, fais-toi changer le ménisque, tout va bien se passer. Et puis, bim, il va à l'hôpital, il contracte une maladie nosocomiale. Donc voilà, quelque chose qui n'était pas obligatoire, ça finit en catastrophe.
Ça finit en catastrophe. Et puis, parfois, c'est vrai qu'il a un peu de mal à obtenir, clairement, qu'on pose des mots sur ce qu'il a, des mots sur ses mots. Et donc, c'est vrai, bon, mais globalement, il faut quand même se dire que c'est pas parce qu'on rentre à l'hôpital qu'on va ressortir avec.
Voilà, c'est même rassurant pour les victimes. En tout cas, qu'on pose un mot sur ce qui leur est arrivé.
Oui, parce que déjà, ça va leur éviter d'avoir à rechercher, c'est ce qui est déjà important. Déjà, quand clairement les choses sont dites, sont écrites, sont posées, vous enlevez déjà un gros travail de recherche qui est très pénible pour les victimes, parce que ça évite de devoir regrouper des preuves à tort et à travers. Et puis, quand les choses sont reconnues, forcément, vous avez beaucoup moins de discussions sur leur imputabilité.
Quelle est la différence entre une infection nosocomiale et une erreur médicale?
Alors, l'infection nosocomiale, elle peut être... déjà, quand on dit erreur médicale, c'est souvent un terme générique.
Donc, ça n'existe pas, l'erreur médicale?
Si, ça existe, mais je pense qu'il ne faut pas être d'accidents médicaux. Accidents médicaux dans lesquels vous avez plusieurs catégories. Vous avez l'infection nosocomiale qui peut être fautive, parfois, quand les protocoles d'hygiène n'ont pas été respectés, mais vous avez aussi l'infection nosocomiale non fautive, c'est-à-dire la complication qu'on ne voulait pas, mais qui est là. Après, vous avez ce qu'on appelle les affections iatrogènes, c'est les complications liées aux soins eux-mêmes, ça, typiquement, c'est le médicament que vous prenez et vous allez développer un effet indésirable. Je pense pas.
Qui est très rare, finalement.
Voilà,
ouais,
je pense par exemple à l'amoxicilline, qui peut être source de ce qu'on appelle un syndrome de l'aïeul, qui est une infection cutanée d'une extrême gravité dont on meurt. Bon, ça, c'est une infection iatrogène. Après, vous avez l'erreur médicale au sens propre du terme, où là, ça veut clairement dire qu'il va être reconnu à l'encontre du praticien un manquement fautif. Voilà. Donc, ça va être soit le mauvais diagnostic, soit le mauvais accomplissement technique de l'acte, soit la mauvaise prise en charge. Alors, parfois, vous avez une infection nosocomiale non fautive, qui va être, dont la prise en charge va être fautive. Ça veut dire le défaut de diagnostic du germe, la mauvaise antibiothérapie, la mauvaise prise en charge. Donc parfois l'un peut se cumuler avec l'autre. Bon, donc il y a plusieurs catégories et vous avez enfin le fameux aléa thérapeutique. C'est le risque minimaliste qu'on pouvait envisager, qu'on n'a pas souhaité, mais qui va se concrétiser. Et donc, selon les cas de gravité, vous pouvez obtenir, même dans les hypothèses où il n'y aurait pas eu de faute, une indemnisation, notamment de la part de l'ONIAM.
Souvent, ce sont des enfants qui viennent, quand ça arrive aux parents, qui viennent essayer de comprendre ce qui s'est passé pour leurs parents. Finalement, tout allait bien, et puis finalement, la personne contracte une maladie et disparaît mystérieusement à l'hôpital. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on peut toujours avoir accès au dossier médical.
Tout à fait. Et je pense que c'est important parce que, si vous voulez, ce que l'expérience professionnelle montre aussi, c'est que, notamment quand il y a des morts, la mort est en soi insupportable. Et je pense que quand on perd son parent...
C'est pour ça que les gens veulent obtenir des réponses.
Réponses, tout à fait. Et que parfois, vous êtes obligé de leur dire qu'après examen du dossier, que oui, il y a eu une mort, mais qu'elle n'est pas imputable ni à une infection, ni à une faute. Que si dure soit la vérité, il faut l'admettre. Et c'est là que parfois, vous pouvez reprocher au système de santé, même qu'encore une fois, je pense... Et dans des conditions épouvantables actuellement, et que quand vous entendez les soignants, vous rendez compte qu'il y a un vrai malaise, très souvent, ça manque de dialogue, tout simplement, et plus de dialogue de la part du corps soignant éviterait, à mon avis, beaucoup de contentieux.
Alors, pour qu'on termine cette émission et qu'on ait bien compris, je vais chez le dentiste, je vais me faire poser j'ai fait un implant, j'ai une infection, là.
C'est un acte de soin. Le dentiste est tenu à une obligation de sécurité. Maintenant, vu que ce n'est pas un établissement de soins, ce sera la victime de rapporter l'existence d'une faute à son encontre.
C'est-à-dire que c'est vous-même qui devez apporter la preuve que vous avez été victime de quelque chose.
Tout à fait. Donc c'est pour ça que même le dentiste a un dossier médical qu'il doit devoir vous transmettre si vous le lui demandez.
Et ensuite, vous, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous investiguez, vous prenez un expert.
On prend un expert qui va nous donner sa lecture du dossier et ça va nous permettre ensuite d'ajuster le tir, c'est-à-dire quel type de procédure engager, vers quel organe, c'est-à-dire est-ce qu'on va devant les juridictions, est-ce qu'on va devant les CCI, donc si vous voulez, une procédure d'indemnisation, c'est comme une voie à l'entrée d'une gare, c'est-à-dire que vous avez une voie qui va se diviser en plein d'aiguillages, le but c'est à partir de la lecture médicale de savoir quelle voie choisir pour obtenir le mieux et le plus vite possible réparation pour la victime.
Mais est-ce que vous, avocat, vous avez intérêt à ce que tout soit judiciarisé, finalement, qu'on fasse des procédures pour tout ou pas?
Non. D'abord, on n'a pas, c'est pas notre intérêt. Je pense qu'aussi un avocat doit savoir dire à son client potentiel, j'entends qu'il vient le voir, que son dossier ne mérite pas une procédure. Moi, ça m'arrive. Souvent, les gens le comprennent ou le comprennent pas. Moi, j'ai des gens qui me disent merci pour votre honnêteté. J'en ai d'autres qui me disent vous êtes avocat des victimes, vous devriez pouvoir m'apporter une aide. Mais c'est aussi le rôle de l'avocat de savoir dire on part pas sur ce terrain-là parce que d'abord, pour le client, c'est pas la bonne solution. Et ensuite, souvent, l'expérience montre que pour l'avocat, c'est rarement non plus un bon choix de prendre un dossier qui ne le mérite pas, parce que ça va être les dossiers les plus difficiles à suivre et les plus pénibles à gérer.
Vous avez réagi alors à un fait divers qui est devenu une affaire nationale, comme c'est souvent le cas quand ça concerne un des droits les plus importants des Français, c'est-à-dire le droit à la conduite. C'est un conducteur qui était âgé de 92 ans et qui a renversé une jeune femme qui a dû être amputée d'une jambe. Et ça a relancé cette question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait pour les conducteurs âgés? Alors, oui, au-delà de, on va dire, 75 ans, on est en conducteur âgé.
Mais je pense que quelque part on fausse le débat quand on dit ça. Ouais, je pense que le débat aujourd'hui n'est plus sur l'âge, il est sur la capacité. Bon. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont atteints d'affections longue durée ou de maladies graves ou qui subissent des traitements lourds très tôt et leur aptitude n'est absolument plus, on peut plus considérer qu'ils sont aptes à conduire. Donc si vous voulez, je pense vraiment que dire il faut mettre en place une visite à partir de 70 ans, ce serait stigmatiser les personnes âgées qui sont pas plus accidentologènes que les autres.
Donc ça veut rien dire. On va dire que l'âge comme critère, voilà, c'est pas défendable parce qu'il y a des gens qui savaient déjà pas conduire à 30 ans.
Pas qu'ils savaient pas conduire, mais qu'ils étaient pas aptes. Encore une fois, c'est l'aptitude. Aujourd'hui, je suis apte. Si demain, je suis un traitement lourd pour une maladie, peut-être que dans 6 mois, je ne serai plus apte à conduire. Et que, à mon sens, celui qui sait mieux que quiconque si la personne qui est sous traitement ou qui a une infection est apte, c'est souvent le médecin traitant ou celui qui suit la pathologie. Et c'est vrai que ça pose la question, je l'entends, il y a aussi la question du secret médical, mais ça pose la question de est-ce qu'il ne faut pas donner aux médecins la capacité de devenir des lanceurs d'alerte.
Ou des délateurs, vous voyez.
Alors, délateur, oui et non.
C'est votre médecin, vous lui faites confiance.
Vous avez quand même... Oui, mais attention, je pense pas qu'il faut que ça se fasse dans le dos du patient. Il faut être clair d'abord sur l'information. Le médecin a un devoir d'information sur la capacité ou pas à conduire, mais qu'ensuite, il y a des cas où il devrait, moi j'ai le cas d'une personne que je connais par relation, ancienne médecin, qui aujourd'hui n'est absolument plus apte à conduire, qui... administrativement, a encore son permis de conduire. Bon. Et qui pourrait conduire et qui, à mon avis, serait susceptible, et qui n'est pas très âgé, elle a 75 ans, mais qui est dans ses là depuis 10 ans, et qui serait susceptible de causer un accident grave. Bon. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Si on suit vraiment aujourd'hui ce que la loi offre, c'est à cette personne d'aller gentiment se signaler auprès des autorités administratives pour dire « je ne suis plus apte ».
Mais souvent, les gens s'accrochent, vous savez que... Et parce que, par nécessité... Quand vous habitez dans un lieu où il n'y a pas de transport en commun, vous êtes isolé.
C'est pour ça que cette question est épineuse, si vous voulez. Je pense qu'il ne faut pas prendre de mesures, d'abord, qui seraient, il faut toujours faire le coût avantage de tout ça, mais qui seraient aussi très handicapantes d'un point de vue social. Si vous habitez à Paris, c'est que la question ne se pose pas de la même manière que si vous habitez au fin fond de la Corrèze. Bon. Donc, je pense qu'au-delà de, il faut toujours se méfier des propositions, parfois légitimes sur le sens de la réaction, suite à un fait divers. Mais à mon avis, il va falloir qu'on ait cette réflexion en profondeur et avec tous les organes concernés, parce qu'on assiste à un vieillissement de la population, on assiste aussi à une population qui vieillissante est exposée de plus en plus à des soins lourds et qui impacte la capacité à conduire. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Est-ce que moi je pense, mais c'est mon avis, que l'âge n'est pas le seul critère.
D'accord. Donc vous disiez tout à l'heure qu'il faut faire des médecins traitants, comme dit notre ami Adil Farkan, des lanceurs d'alerte, finalement.
Lanceur d'alerte vis-à-vis de son patient, et pourquoi pas, mais ça c'est vrai que c'est une réflexion qui mérite d'être menée et qui a des pour et beaucoup de contre aussi, donc pourquoi pas, de médecin à médecin, entre médecins qui suivent le patient et le médecin de comités médicaux.
Voilà. Et vous êtes pour cette aptitude médicale à la conduite, alors en quoi est-ce que ça consiste une aptitude médicale à la conduite? C'est quoi? C'est un certificat, une visite médicale qu'on doit passer tous les ans, tous les
non,
deux ans?
Non, ce serait plutôt de savoir clairement dire à quelqu'un qui suit un traitement qui est malade, vous n'êtes plus apte à conduire, soit définitivement, soit temporairement, et comme on retirerait un pilote de ligne sa licence parce qu'il ne serait plus capable de piloter, à un conducteur, vous n'êtes plus en capacité de conduire. Mais si vous voulez, le problème c'est faites passer quelqu'un tous les 2 ans à partir de 70 ans, vous empêcherez jamais la personne qui suit un traitement lourd de plus être apte de continuer à conduire à 60 ou à 55. Donc la réponse facile serait de dire faut mettre une visite médicale, ce qui aurait un coût énorme et qui en termes de mécanisme serait lourd.
Comme toujours, bien sûr.
Et je pense que ça répondrait que de manière insatisfaisante. Et en plus, ça stigmatiserait les personnes âgées qui, encore une fois, sont pas les plus accidentogènes quand on lit les statistiques.
Voilà. C'est pas parce qu'on est âgé finalement qu'on...
Non, par contre dans le cas des Champs-Élysées, c'est que la vraie question c'est, mais ça l'enquête nous dira, est-ce que cette personne était apte ou pas à conduire, et si elle n'était pas, qui le savait? Voilà, vous avez ce même cas, semble-t-il, moi de ce que j'ai appris, je ne suis pas dans le dossier, mais dans le cas de Milas, où se pose la question du traitement qui a pu être donné à la conductrice du bus. Donc là, typiquement, c'est au cas par cas qu'il faut regarder qui avait l'information et qui peut-être n'a pas agi.
Mmh. Bien, mais c'est un débat de société et au moment où ça arrive, ça s'emballe toujours. Bien, les maladies nosocomiales, on en parlera, on suivra effectivement. Aujourd'hui, toutes les, par exemple, les CCI, on peut les saisir sans avocat.
Alors, on peut les saisir sans avocat, mais il faut ne pas oublier qu'il y a des critères de compétence. Hein, donc, ça veut dire des critères de gravité. Il faut avoir eu un arrêt de travail d'au moins 6 mois ou sur un an 6 mois cumulés. Il y a plusieurs critères qui. Donc, c'est toujours bien au moins de prendre contact avec une association de patients qui sera à même de vous dire si vous rentrez ou pas dans le cadre des CCI.
Maître Vincent Judé-Parade, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé dans la défense des victimes.
Beurre FM, 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon.